Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Dimanche 17 août 2014, il est 18h, vous écoutez Studio Tamani depuis la maison de la presse de Bamako, le journal en français avec Mouhamadou Touré. Voici les titres. Deux casques bleus burkinabés tués, quatre autres blessés. C'est le nouveau bilan de l'attentat suicide qui a visé le camp de l'AMUNISMA hier à Ber, dans la région de Tombouctou. La force onusienne a condamné cette attaque. L'AMUNISMA est en manque de moyens, mais les mesures nécessaires sont en train d'être mises en place pour faire face à ces défis d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré David Gressly, représentant spécial adjoint de l'ONU au Mali, sur RFI. Plus de 500 cas de fièvre Ebola, dont 378 décès confirmés, c'est le bilan enregistré par la Guinée-Conakry. Cinq mois après la déclaration de la maladie, le virus continue à se propager dans ce pays frontalier du Mali. Les négociations continuent entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. L'augmentation des salaires et la diminution du train de vie de l'État sont les points de revendication qui posent le plus de problèmes dans ces discussions. Le développement de ces titres, c'est pour tout de suite. Deux soldats burkinabés de la force de l'AMUNISMA ont été tués hier. L'attentat suicide a fait également quatre blessés à Ber, dans la région de Tombouctou. Dans un premier temps, le bilan était de un mort, mais un des militaires blessés a succombé à ses blessures, ce qui porte le nouveau bilan à deux morts et quatre blessés. Les précisions avec Issa Fakaba Sissoko.
Les djihadistes ont procédé à un attentat à la voiture piégée contre le camp de l'AMUNISMA à Ber, situé à 60 km de Tombouctou. Le camp visé par les djihadistes est tenu par les soldats burkinabés. Un véhicule piégé s'est introduit à vive allure dans le camp. Il y a eu une grande explosion, selon les premiers témoignages. David Gressly, représentant spécial adjoint de l'ONU au Mali, s'est indigné. Selon lui, cette violence est insensée. L'AMUNISMA paye un prix très élevé alors que ses membres sont ici pour assurer le retour à la paix et à la stabilité. C'est la troisième opération djihadiste cette semaine contre l'AMUNISMA. Il y a quelques jours, un véhicule des forces onusiennes a sauté sur une mine dans le nord-est, blessant trois occupants. En fin de semaine, un autre véhicule a sauté sur une mine, blessant un casque bleu.
Le représentant spécial adjoint de l'ONU au Mali dénonce cette attaque et estime qu'il faut plus de moyens pour renforcer la mobilité des troupes onusiennes. David Gressly espère que cette situation va changer avant d'ici la fin de l'année. Il est au micro de nos confrères de RFI.
On devient de plus en plus sensible pour certains groupes. Donc ça pose un problème et on est en train de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ce défi. On a un manque de moyens en termes des hélicos, par exemple. Ça pose toujours un problème pour notre mobilité. On n'a pas encore toutes les forces qui étaient prévues. On n'a que 8 000 et quelques centaines de militaires parmi les 11 200 prévus. Donc on attend toujours d'autres éléments de venir dans les mois à venir. J'espère d'ici la fin de l'année, la situation va changer. Mais pour l'instant, ça demande beaucoup de notre force qui est déjà sur le train de faire face à tous ces défis.
Mesdames et messieurs, vous pouvez réagir à ces informations sur la page Facebook Studio Tamani.
Tamani.
Cinq mois après la déclaration de la fièvre Ebola, le virus continue à se propager en Guinée. Le pays a enregistré plus de 500 cas, dont 378 décès confirmés. 18 malades sont actuellement hospitalisés dans les centres de traitement de Conakry. Selon Dr Sekoba Keïta, porte-parole de la Commission guinéenne de riposte contre le virus Ebola, les derniers cas enregistrés sont des chauffeurs, des taxis, transporteurs interurbains. Il est au micro de notre confrère Amara Kamara du studio École de la Fondation Hirondelle à Conakry.
On a essayé de nous mettre en conformité avec le contenu de la déclaration sur l'urgence sanitaire. On doit faire beaucoup plus de communication, mais il y a deux axes de communication. Il y a une communication destinée aux communautés directement par le porte-à-porte dans les différents villages. On va utiliser les communicateurs traditionnels, les leaders communautaires. Et il y a une autre communication pour le grand public qui doit impliquer toute la presse publique et privée et certaines ONG de la place, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos derniers cas enregistrés sont des chauffeurs de taxi. Il y a des chauffeurs de taxi qui se cachent pour transporter des malades et ils ne les notifient pas. C'est ainsi qu'on peut en citer le cas de Sigiri dont je vous ai parlé, c'est un chauffeur de taxi. Le cas de Zérikore, c'est un chauffeur et tout récemment, on a un cas décédé de chauffeur à Dubreka.
Les négociations continuent entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Une commission de conciliation a été mise en place pour faciliter les discussions. Objectif, donner la parole à chacun, le temps de parler et de s'expliquer afin de parvenir à un accord définitif. Les points de revendication qui posent le plus de problèmes dans les discussions sont les salaires et la diminution du train de vie de l'État. Mamadou Lamine Diarra, président de la commission de conciliation micro de Barkhane,
L'Union nationale revient sur certaines revendications qui avaient été promises depuis 2005-2007 et qui n'ont pas abouti. Cela fait perdre la confiance entre le gouvernement et les travailleurs. Et c'est ça que nous voulons réparer. S'il n'y a pas d'entente, ce ne serait pas la première fois. Nous souhaiterons qu'il y ait une entente. L'essentiel pour le travail aujourd'hui, c'est l'augmentation des salaires. Nous avons demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités sur le contrôle des prix qui vont flambant. C'est ce qui handicape les travailleurs. Nous regrettons aussi que des vieux fonctionnaires qui naissent et renaissent, qui font des jugements supplétifs d'actes de naissance, il est temps qu'ils laissent la place aux jeunes. Et ce que nous avons demandé aussi, c'est la prise de conscience de tout un chacun, et du gouvernement et des travailleurs. Que le gouvernement diminue son train de vie. Que le gouvernement sache qu'il y a des chefs de famille qui ne mangent qu'une seule fois par jour parce que le salaire est tout petit. Il ne parvient pas à subvenir aux besoins de la famille. Donc nous continuons nos travaux. Faites-nous des bénédictions.
Les femmes de Kobada expriment leur colère après les exactions dont elles estiment avoir été victimes. Beaucoup ont tout perdu, y compris leur commerce. Elles ont lancé un cri d'alarme aux autorités afin qu'elles puissent reprendre leurs activités pour leur permettre de nourrir leur famille. Djeneba Sangaré, représentante des femmes de Kobada, joint au téléphone par Mariam Koulibaly.
On faisait le commerce, il n'y avait pas de problème, tout le monde était tranquille. Jusqu'au 11 mai 2013, on a eu une équipe qui est venue au Kobada, ils nous ont dit de quitter, ils ont posé beaucoup de dégâts. Après, les gens sont retournés encore pour travailler. Si tu travailles, tu perds de l'argent pour les gendarmes. C'était tranquille parce qu'eux, ils recevaient leur argent, donc il n'y a pas de problème. On a travaillé comme ça jusqu'au le dernier événement qui s'est passé. Si vous n'avez pas volé les produits du Touba, il faut rester tranquille. On va venir visiter au lieu de commerce, les maisons. S'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. C'est le troisième équipe maintenant, il a commencé à casser ses bamas. Ce que j'ai perdu, c'est plus de 4 500 000 en marchandises et plus de 1 million en matériel. Nous nous demandons aux autorités de faire de leur mieux.
Le bureau du vérificateur général du Mali a organisé une rencontre avec les femmes leaders du Mali. Cette rencontre de 2 jours avait pour objectif d'impliquer les responsables des associations féminines dans la lutte contre la corruption au Mali. La rencontre qui a pris fin hier a abouti à la mise en place d'un réseau de femmes de lutte contre la corruption. Madame Dambélé Ouleymatou Feakoff Sow au téléphone de Modibo Mariko.
On nous a fait comprendre qu'est-ce que le bureau du vérificateur fait dans la lutte contre la corruption, ses missions, ainsi que sa façon de dénonciation dans la lutte contre la corruption. Et puis également, ils ont demandé comment on peut s'engager dans cette lutte et comment on peut aider le bureau du vérificateur à mieux faire son travail. Parce que le bureau du vérificateur en tant que tel a des limites. Donc c'est pourquoi, à un certain moment, il faut que la société civile aussi s'engage pour que vraiment la lutte puisse être une lutte complète et accomplie. Nous sommes engagés à mettre en place un réseau de lutte contre la corruption à travers nos organisations féminines en les informant, en renforçant leurs capacités et en engageant des plaidoyers forts par rapport aux différentes recommandations avec les communautés à la base, notamment avec les femmes.
La première clinique mobile de l'AMPPF a été inaugurée cette semaine à Bamako. L'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille entend ainsi rapprocher les populations des services de santé sexuelle de reproduction. L'acquisition et l'aménagement de cette clinique mobile a coûté 16 millions de francs CFA, selon le directeur national des programmes. Moussa Mbou est au micro de Aliou Sidibé.
Il s'agit de mener des activités d'accès des populations au services de santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale, le dépistage du cancer du col, la prévention et le traitement des IST, la prévention du VIH-SIDA, afin qu'on limite le coût lié au transport et aux produits. Pour un départ, c'est une clinique pilote. En matière de cibles marginalisées, c'est surtout les femmes et les jeunes. Donc cette clinique nous a coûté 16 millions. Pour l'année 2014, ils nous ont donné une enveloppe de 90 millions, dans laquelle il y a les 16 millions par rapport à la clinique mobile. Bamako, Kati et un peu vers le cercle de Kita. On va commencer par ces zones-là parce que nous avons en perspective de donner une clinique mobile à toutes nos antennes. Donc ce qui va faire au total 10 cliniques mobiles.
Un tour dans les régions en brève. Plus d'une vingtaine des jeunes déplacés du Nord ont reçu ce matin à Sikasso leur diplôme en maçonnerie. Ces jeunes de 18 à 35 ans ont acquis une formation de 8 mois au centre de formation Le Bâtiment. Cette réinsertion socio-professionnelle a été financée par le gouvernement du Mali et l'Agence française de développement AFD à hauteur de 7 millions de francs CFA. Les albinos de Caille ont reçu ce matin un don de matériel. Plus de 50 habits pour les filles et les garçons, des crèmes scolaires et un ordinateur bureautique ont été remis par la Fondation Faisal, la jeune chambre internationale, à l'association SOS Albinos de Caille. Selon les partenaires, ce geste témoigne de la solidarité envers les enfants atteints d'albinisme. Fin de l'atelier de formation des femmes sur les techniques de négociation à Sévaré, région de Mopti. Pendant 2 jours, plus d'une vingtaine de femmes déplacées de Tombouctou ont appris les techniques de négociation, médiation et réconciliation. L'objectif est de préparer les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la réconciliation. L'atelier est organisé par l'Association pour la promotion de la femme avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis. C'est tout pour cette édition du journal présentée par Mouhamadou Touré. Merci de l'avoir suivi.